18h quand même sur France Inter, hein, faut pas traîner. Bonsoir Fabienne Saint-Esse.
Bonsoir Charline et tout le monde. Demain, même heure, même endroit. Nous, on est ouverts, c'est bien ici. Entrez, le 18-20, France Inter est prêt à décoller. Bienvenue sur la planète et sa banlieue. Dans l'équipage, comme chaque soir, premier journal de la soirée. Bonsoir Amélie Perrier.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce mardi 10 septembre commence avec des fissures pas très rassurantes.
Des soudures défaillantes dans les centrales nucléaires françaises. EDF lance une enquête pour déterminer l'ampleur du problème. Le titre perd plus de 7% en bourse ce soir. Une toute nouvelle commission européenne, la française Sylvie Goulard, hérite d'un portefeuille très large, le marché intérieur, la défense, l'espace. D'autres commissions sont plus étonnantes, comme celle du Grec consacrée, je cite, à protéger notre mode de vie européen. Steve a-t-il été poussé dans la Loire le soir de la fête de la musique à Nantes lors d'une charge de la police? Son téléphone a borné au moment de l'opération des forces de l'ordre. Et nous visiterons en avant-première l'exposition phare de la rentrée à Pompidou, à Paris. Francis Bacon en toutes lettres. Le soleil revient demain, météo complète à la fin de ce journal avec Élodie Calac.
Et à 18h15, un jour dans le monde. Nous aussi, on va regarder de très près cette commission, cette nouvelle commission européenne annoncée aujourd'hui par Ursula von der Leyen. Quelle promesse tient-elle? Quel programme pour cette nouvelle commission? Nous allons aussi en Chine où ça devient compliqué pour les clandestins de Corée du Nord. Et puis le téléphone sonne avec les pompiers ce soir et cette grève à bas bruit qui dure depuis le mois de juin, qui se confond d'ailleurs à certains égards avec la grève des urgences. Les pompiers veulent qu'on arrête de les solliciter pour un oui ou pour un non. Ils sont caillassés parfois. Gare à la crise des vocations aussi. Si on en parle au 01 45 24 7000.
France Inter.
Des soudures donc qui laissent à désirer dans les centrales nucléaires françaises.
EDF l'annonce aujourd'hui, une enquête est ouverte pour connaître l'ampleur du problème. En cause, des composants des réacteurs nucléaires fournis par l'entreprise Framatome. Tout le parc français n'est pas concerné, mais quelle centrale alors? Bonsoir Delphine Simon.
Bonsoir.
En fait, y a-t-il matière à s'inquiéter?
Alors, il est un peu tôt pour le dire. Une vingtaine de générateurs à vapeur fabriqués depuis 2008 sont concernés. Du matériel en service ou neuf qui équipe les centrales nucléaires, lesquelles trop tôt pour le dire. Donc, les générateurs dans les centrales nucléaires, ce sont ces équipements en forme de suppositoire qui envoient l'énergie du réacteur vers la turbine à vapeur. Et cet été, le fabricant Framatome a constaté des écarts de température sur certaines soudures. Framatome assure que l'intégrité des composants n'est pas mise en cause, mais l'autorité de sûreté nucléaire demande des vérifications. Il faut évaluer l'impact de ces possibles anomalies. Frédéric Ménage, directeur de l'expertise à l'Institut supérieur de radio. Protection et de sûreté.
Il s'agit principalement, pour les réacteurs en service, de générateurs de vapeur de remplacement. Par endroits, ça chauffait trop fort, et dans d'autres endroits, ça chauffait pas assez fort. Donc ça pose deux types de problèmes différents. Dans les endroits où on chauffe trop fort, on réduit les propriétés du matériau, par exemple sa limite d'élasticité, donc il devient plus fragile. On risque d'avoir une moindre résistance à la rupture brutale.
EDF mène l'enquête pour connaître l'ampleur de ce problème et savoir quels sont les réacteurs concernés.
Un nouveau pavé dans la mare du nucléaire français, déjà mal en point, hein, Delphine.
Oui, il y a les déboires de l'EPR de Flamanville, dont la mise en service est repoussée de 3 ans pour un problème de soudure, déjà. À ça s'ajoute la réorganisation de toute la filière nucléaire. Le fabricant Framatome est l'ancienne branche réacteur d'Areva, rachetée par EDF. L'opérateur est donc actuellement son premier partenaire, alors que l'usine à l'origine du problème dont nous parlons fait partie du site du Creusot, déjà à l'origine du scandale de falsification il y a quelques mois. L'action EDF ce soir a perdu en bourse 8%.
Delphine, Simon, merci à vous. À Fukushima, la centrale accidentée par un tsunami au Japon en 2011. On se demande aujourd'hui que faire de l'eau contaminée au tritium et stockée sur le site. Le ministre de l'Environnement japonais vient de dire que le seul moyen de s'en débarrasser était de le rejeter en mer. Il a été recadré sèchement par le porte-parole du gouvernement qui affirme que rien n'est décidé sur le sujet.
Hautement radioactif aussi, Amélie, les questions de filiation de PMA et de GPA au cœur du débat bioéthique.
Dont la loi sera discutée à l'Assemblée à partir du 24 septembre. Une loi où il sera question de l'ouverture de la PMA, la procréation médicalement assistée à toutes les femmes célibataires et lesbiennes comprises. Or, les opposants n'hésitent pas à brouiller le débat en considérant qu'il s'agit d'une première étape vers l'autorisation de la GPA, la gestation pour autrui, le recours aux mères porteuses. On comprend ainsi la grande prudence du gouvernement qui ne veut pas tout mélanger, qui refuse d'autoriser la GPA. Toutefois, pour se mettre en règle, la France va reconnaître la filiation des enfants nés d'une GPA à l'étranger. La ministre de la Justice est ferme et précise cet après-midi à la tribune de l'Assemblée. Il n'y aura pas de filiation automatique pour le parent d'intention qui n'a pas porté l'enfant. Il faudra passer par l'adoption.
Le gouvernement n'entend nullement modifier la situation juridique des enfants nés de GPA. Le deuxième parent, père ou mère d'intention, doit toujours passer par un processus d'adoption pour voir sa filiation reconnue à l'état civil français. Cette solution, me semble-t-il, consacre un équilibre entre, d'une part, la prohibition de la GPA, qui est contraire à notre éthique et à notre droit, et d'autre part, l'intérêt de l'enfant à voir sa filiation établie et à mener une vie familiale normale. Cette circulaire n'aura en aucune manière vocation à modifier le droit actuel, mais au contraire à en rappeler les termes exacts. En toute hypothèse, la GPA demeurera un interdit absolu.
La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, propos recueillis par Maxence Lambrecq. La ministre des Sports, elle, est en désaccord ouvert avec le président de la Fédération française de foot, Roxana Maracineanu, nous condamne les propos de Noël Le Graët, qui refuse de faire arrêter les matchs quand des injures homophobes sont criées des tribunes, alors qu'il faut les suspendre en cas d'insultes racistes. Faire la différence entre homophobie et racisme, c'est une analyse erronée, dit la ministre. Et Noël Le Graët doit, selon elle, prendre ses responsabilités. Pas convaincus, les personnels des urgences. L'Assemblée générale des grévistes vote ce soir la poursuite du mouvement. Pas convaincus par le plan d'Agnès Buzyn présenté hier. La ministre de la Santé promet 750 millions d'euros d'ici 2022, puisés dans des crédits déjà existants et pas de postes supplémentaires. L'enquête sur la mort de Steve le soir de la fête de la musique à Nantes est relancée grâce à son téléphone portable. Appareil à borner, cela veut dire que l'on repère son signal. Il a borné au moment de la charge des policiers. Or, jusqu'à présent, la police des polices ne faisait pas le lien entre l'intervention des forces de l'ordre et la noyade du jeune homme dans la Loire. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
Le téléphone de Steve pourrait donc mettre en cause le rapport de l'IGPN.
En tous les cas, cette information interroge sur les conclusions de ce rapport, puisqu'il y est clairement dit que le téléphone du jeune homme a arrêté de borner vers 3h30 du matin, soit à peu près une heure avant l'intervention des forces de l'ordre. Affirmation contredite donc ce soir par les enquêteurs de la police judiciaire. Au moment où cette information avait été rendue publique, les autorités s'en étaient saisies pour expliquer qu'on ne pouvait pas établir avec certitude un lien entre l'opération de police et la mort de Steve Canisso, puisqu'il y avait ce laps de temps, donc cette heure où, faute de téléphone, on ne savait pas où se trouvait le jeune homme. Avec ce nouvel élément, la piste d'une concomitance entre l'intervention de la police et la mort de Steve Canisso revient donc au premier plan. Ce n'est pas la première fois que le rapport de l'IGPN question. On peut également y lire qu'un homme ayant fait un signalement après cette intervention de police n'a pas donné suite aux sollicitations de l'inspection générale. Lui assure ne jamais avoir été contacté.
Ariane Grissel du service police-justice. Des professeurs mal payés, c'est dans le rapport de l'OCDE. Les salaires des enseignants français sont inférieurs à la moyenne des pays de l'organisation en 2018. Ils gagnent près de 28 000 euros bruts par an dans le primaire contre 29 900 euros en moyenne dans l'OCDE.
Et à 18h08, Amélie, la nouvelle Commission européenne et sa présidente Ursula von der Leyen qui a présenté donc son équipe aujourd'hui.
La Française Sylvie Goulard hérite d'un large portefeuille. Le marché intérieur, il englobe la politique industrielle, le marché numérique, l'industrie de la défense et l'espace. Sylvie Goulard, par ailleurs entendue ce matin par la police judiciaire à propos des soupçons d'emploi fictif au Modem. Mais revenons sur cette nouvelle Commission européenne avec vous, Angélique Boin. Bonsoir.
Bonsoir.
La correspondante de France Inter à Bruxelles. Alors, priorité de cet exécutif européen, l'environnement, le climat confié à Frans Timmermans, le social-démocrate néerlandais. Angélique, on a quelques nominations plus surprenantes ce soir, à commencer par le portefeuille confié au grec Margaritis Kinas. Il s'intitule, ce portefeuille, Protéger notre mode de vie européen. On parle là du dossier des migrants, en fait.
Oui, Margaritis Kinas, bien connu ici à Bruxelles, hein, car c'était le porte-parole de la commission Juncker et qui récupère ce portefeuille à l'intitulé qui donc interpelle. Nous espérons que la présidente ne voit pas de contradiction entre soutenir des réfugiés et les valeurs européennes, a réagi immédiatement Ska Keller, la coprésidente du groupe des Verts au Parlement. Et la polémique enfle, d'autres eurodéputés s'en émeuvent depuis le début de l'après-midi. Interrogé en salle de presse, Ursula von der Leyen avait précisé qu'il s'agissait de s'accrocher à des valeurs et que la dignité de chaque être humain en est une. Pas sûr qu'elle ait convaincu.
Autre particularité, Angélique, la Danoise Margrethe Vestager conserve la commission qu'elle dirigeait déjà, la concurrence. On est rarement reconduit à son poste à la commission, en fait, Angélique.
Oui, mais c'est même si c'est une règle non écrite hein, qu'un commissaire sortant ne garde pas le même portefeuille, mais celle que Donald Trump surnomme la Tax Lady a été considérée comme très efficace hein, sur ce sujet, faisant trembler la Silicon Valley. Les enjeux sont cruciaux. Elle va par ailleurs chapeauter tout le numérique, dont la présidente a fait l'une de ses deux priorités. Ce sera un poids lourd hein, de la prochaine commission.
Et Phil Hogan, irlandais, lui, hérite du commerce, dossier sensible en plein Brexit, Angélique.
Oui, ex-commissaire à l'agriculture, où il a acquis une solide expérience de négociateur. Il récupère un poste stratégique. Il devra négocier le futur accord commercial avec les Britanniques. Il devra également gérer les tensions commerciales avec les États-Unis.
Angélique Bois, en direct de Bruxelles, merci à vous. La CIA avait un espion au Kremlin et ainsi la preuve que la Russie s'est mêlée de la présidentielle en 2016 et de la victoire de Donald Trump. Révélation des médias américains. Ils affirment que les services secrets américains ont sorti de Russie une taupe en 2017, qu'ils avaient réussi à infiltrer jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir russe. C'est la correspondance à Washington de Grégory Phillips.
On ne connaît pas son nom, mais la chaîne américaine NBC affirme que l'homme vit désormais quelque part dans la banlieue de Washington. CNN et le New York Times ont été les premiers à révéler cette affaire d'espionnage digne des plus grands romans de John le Carré. Le russe a été recruté par la CIA il y a plusieurs années avant qu'il ne gravisse les échelons au Kremlin. CNN affirme que cet homme avait un accès direct à Vladimir Poutine et qu'il a pu fournir des images de documents photographiés sur le bureau du président et ainsi confirmer le rôle direct de Poutine dans les tentatives d'ingérence russe lors de la campagne présidentielle américaine de 2016. La même année, selon le New York Times, la CIA propose à son espion de l'exfiltrer, mais celui-ci refuse. La taupe invoque des raisons familiales. Les Américains redoutent alors que ce soit un agent double. Mais quelques mois plus tard, l'espion russe quitte finalement Moscou et arrive aux États-Unis. Ce soir, le porte-parole du Kremlin minimise le rôle de cet homme auprès du président Poutine et parle de romans à sensation, écrit par la presse américaine. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Lui tire sa révérence, Jack Ma, le milliardaire chinois à la tête d'Alibaba, mastodonte du commerce en ligne. Sa fortune est estimée à 41 milliards de dollars et il s'arrête alors qu'il va célébrer demain son 55e anniversaire. Il passe le flambeau à son discret numéro 2, Daniel Zhang, et fête sa retraite ce soir en grande pompe dans l'est de la Chine, là où il a lancé Alibaba en 1999. Lui aussi tire sa révérence, Robert Frank, maître de la photographie. Il est mort à l'âge de 94 ans. Américain d'origine suisse, il était devenu célèbre avec son album Les Américains, sorti à la fin des années 50, des clichés noirs et blancs instantanés et portraits d'une Amérique sombre, pauvre, inégalitaire, un ouvrage préfacé à l'époque par Jack Kerouac. Et puis lui aussi a marqué le 20e siècle avec ses portraits, mais en peinture. Francis Bacon est à l'honneur au Centre Pompidou à Paris. C'est l'une des expositions stars de la rentrée. Elle est consacrée aux 20 dernières années de l'artiste anglais, à partir de 1971, où il opère un virage artistique majeur. Adrien Serrière a pu voir la rétrospective en avant-première.
Avec des couleurs intenses, jaune, rose, orange, des triptyques où s'équilibrent violence, érotisme et beauté, Francis Bacon prend un virage artistique au début des années 70, notamment après le suicide de son compagnon, George Dyer, suicide qui lui a inspiré plusieurs tableaux rassemblés dans une salle de l'exposition. On peut également admirer l'eau qui coule d'un robinet, œuvre explicite que l'artiste considère comme ce qu'il a fait de mieux. Didier Hautinger, le commissaire de l'exposition.
Qu'est-ce qu'il a de particulier ce tableau? Bacon répond par un seul mot, immaculate. Il est immaculé, c'est-à-dire que, selon lui, il apparaît comme une sorte d'apparition quasi miraculeuse et presque le produit d'une image mentale, finalement.
Le peintre poursuit ce même idéal en s'inspirant de la littérature. Nietzsche, Eschyle, Conrad ou encore Eliot. Des lectures de leurs œuvres sont associées aux tableaux qu'ils ont inspirés à Francis Bacon. Le visiteur n'a que ces mots-là pour appréhender la peinture, car l'exposition propose très peu de textes explicatifs. Un choix de Didier Hautinger.
Quand on a des œuvres aussi puissantes que celles de Bacon, je pense qu'elles n'ont pas besoin de béquilles. Le fait d'accumuler les textes explicatifs, les exégèses sur les œuvres, évidemment, vous mettre dans une relation qui est une relation de, presque j'allais dire, de connaissance rationnelle face au tableau. Or, la peinture n'est pas nécessairement faite pour comprendre, plutôt pour vous ébranler.
Le Centre Pompidou propose en revanche un podcast pour se plonger dans l'œuvre troublante et incandescente de Francis Bacon.
Bacon en toutes lettres, c'est au Centre Pompidou à Paris à partir de demain et c'est jusqu'au 20 janvier.
Amélie Perrier, le journal, merci beaucoup. Et à tout de suite dans Un jour dans le monde. Ce matin, nous aussi, on s'intéresse donc à la nouvelle Commission européenne, ses objectifs et sa couleur. Nous sommes aussi entre la Chine et la Corée dans le bruit du monde. Et puis 18h20, la suite, c'est le téléphone sonne. Je vous le remets dans l'oreille. Le standard est ouvert. Est-ce que vous le saviez, vous, honnêtement? concrètement que les pompiers sont en grève depuis le mois de juin. Ben non, puisqu'on en parle à peine et que techniquement ils travaillent, mais le blues est bien là, sursollicité, caillassé très souvent, des gardes de 24 heures. Leur grève se confond parfois avec celle des urgences et on en parle ensemble au 01 45 24 7000. Un œil par la fenêtre peut-être.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Élodie Kalla, qu'est-ce que c'est que cette pluie par le sud-est ce soir ?
Oui, on en a encore hein, ce soir. Alors des pluies parfois marquées, mais ça va s'arranger doucement. Demain, il restera seulement quelques pluies le matin des Pyrénées à l'Occitanie. Le soleil reprendra sa place l'après-midi. Il sera d'ailleurs déjà bien installé hein, le matin sur les autres régions du sud. En allant vers le nord, on trouvera plus de nuages près de la Manche, jusqu'au nord de la Seine. Un ciel souvent gris avec quelques gouttes du vent sur les côtes. Sur le nord-ouest, quelques brouillards le matin. Un ciel de plus en plus voilé qui glissera vers le nord-est l'après-midi en effaçant progressivement les éclaircies.
Et sinon, moins frais ?
Oui, on retrouvera
donc
des valeurs. Oui, c'est ça, on retrouvera des valeurs de saison, 19 à 25 degrés au nord l'après-midi, 22 à 29 au sud. Patience le matin, ce sera quand même frais du massif central au nord-est, 3 à 9 degrés, 7 à 12 ailleurs, jusqu'à 18 sur le sud-est. Il va faire chaud ce week-end, Fabienne, ça sera estival.